France Info.
20h03 sur France Info, l'heure des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils disent déjà youpi au week-end, hein, enfin, pas pour tous en tout cas, mais certains, puisque ça va arriver dans quelques minutes, et ce soir, les informés de France Info reçoivent Swazik Kemener de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Également, le conseiller régional d'Île-de-France, Les Républicains, Geoffroy Didier, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Scholl, directeur de Courrier International, bonsoir.
Bonsoir.
Et l'écrivain Diane Ducret, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez de publier Les Indésirables chez Flammarion. Alors, rapidement, qui sont ces Indésirables, Diane Ducret?
C'est un roman qui s'inspire de faits historiques réels. Les Indésirables, ce sont toutes les Juives et les Allemandes, en tout cas, tous les étrangers, les réfugiés, qui en 1940, au déclenchement de la guerre, ont été jugés indésirables, dangereux et ont été... grandes découvertes que j'ai fait récemment ont été parquées, raflées au Vélodrome d'hiver, puis emmenées dans des camps d'internement français, dans les Pyrénées notamment, à Gurs.
Ouais. On va continuer à en parler tout au long de l'émission, mais pour l'instant, dans Informé de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et maintenant, donc, le cabinet noir. Alors, cabinet noir, un terme qui donne envie de continuer la phrase en disant « Ça sent le complot et la lecture de correspondances secrètes à la lueur d'une bougie une fois le soleil couché. » Sous Richelieu, on appelait ça « cabinet du secret des postes hein. ». Un cabinet noir toujours dissous, mais finalement utilisé sous tous les régimes, une expression à brin désuète qui fait un peu donc secret d'histoire avec Stéphane Bern, mais que François Fillon n'a pas hésité à utiliser hier soir pour dénoncer les affaires l'entourant et mettre en cause le premier personnage de l'État. Qu'en est-il ce soir? Alors nous rejoignons tout de suite Mathieu Mandoloni, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Alors du service politique de France Info, vous avez suivi le meeting de François Fillon ce soir à Biarritz. Le candidat de la droite a-t-il fait allusion alors à ce fameux cabinet noir?
Alors effectivement, il y a fait allusion, alors, pas directement au cabinet noir hein, Jean-Mathieu, mais il est revenu sur ce qu'il a appelé des manigances politiques hein, en expliquant et en ciblant une nouvelle fois François Hollande, mais aussi Emmanuel Macron et le PS qui tous les trois ont réclamé son retrait, dit-il, et donc celui de la disparition pour lui de la droite et du centre. C'est la seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon, a insisté le candidat Les Républicains. Mais sinon, dans son court discours, hein, une demi-heure à peine, il n'est pas revenu une nouvelle fois sur ses attaques. Il se dit victime sur ce cabinet noir, sur ce complot. C'est plus dans la salle, hein, Jean-Mathieu, auprès des militants, auprès de cette base qu'il cherche désormais à convaincre, effectivement, qu'on a pu entendre ces mots hein, crier parfois, d'ailleurs, pendant le discours de François Fillon, dès qu'il mentionnait François Hollande ou le gouvernement ou Monsieur Jouyet. Systématiquement, on a eu le droit à ces mots qui ont été hurlés. Et puis, c'est en allant discuter aussi avec ces militants qu'on a pu voir que la stratégie porte auprès de ce socle. Ils nous ont tous parlé, effectivement, de ce cabinet noir. Ils en sont convaincus derrière ces révélations, derrière les affaires qui traînent comme un boulet au pied du candidat, eh bien, c'est évidemment la main de François Hollande et de ce fameux cabinet noir.
Une chose encore, Mathieu, est-ce qu'il y avait du monde à ce meeting de Biarritz pour François Fillon?
Alors écoutez, il y avait une salle effectivement pleine hein, au parc des expositions de Biarritz. Le speaker tout à l'heure au début du meeting annonçait à peu près 4000 personnes. Je dirais qu'on est effectivement dans ce nombre-là hein, d'après ce qu'on a pu voir ici. Donc une salle pleine, effectivement, des drapeaux, des gens qui criaient, qui acclamaient François Fillon et qui étaient surtout impatients de le voir. Hein. Virginie Calmels, vous savez, l'ancienne proche de Alain Juppé, ouais. Hein, la fondatrice du mouvement Droite Libre, qui était là, s'est même fait un peu disputer, un peu huer à la scène quand elle est montée, car tous voulaient voir le candidat et certainement pas quelqu'un qui en soutenait un autre il y a encore quelques semaines.
Merci beaucoup Mathieu Mandoloni, donc du service politique de France Info. Vous étiez en direct de Biarritz où François Fillon tenait un meeting. Éric Scholl, vous vouliez préciser quelque chose autour du cabinet noir?
Non, le cabinet noir, bon, c'est une. Si vous voulez, on a eu. On rentre dans cette partie un peu complot, etc. Ouais. C'est une dimension. Et ce qui manque finalement pratiquement dans cette campagne, on a les affaires, maintenant on a le complot. C'est, j'allais dire, c'est le sexe. Vous voyez, ça, on avait eu ça dans une campagne précédente. Non, mais c'est un petit peu vrai. On a eu là, on a toutes ces affaires, maintenant le complot. Sur le fond, sur la stratégie, c'est une stratégie. Effectivement, c'est une stratégie de la part de François Fillon et c'est une stratégie qui vise à ressouder son camp qui s'est rétréci. Et qui peut peut-être fonctionner parce que il y a si vous regardez les dernières semaines, il y a à peu près maintenant deux révélations par semaine.
C'est ça.
Donc effectivement, Il peut jouer là-dessus pour, comme pour une stratégie pour resserrer son camp.
Geoffroy Didier, alors vous-même, comment vous l'avez perçu, cette finalement mise en accusation du chef de l'État par François Fillon hier soir ?
D'abord, j'estime qu'on n'a pas besoin de savoir s'il existe un cabinet noir à l'Élysée pour avoir envie d'alternance. Et je suis vraiment triste qu'on en soit à ce stade, c'est-à-dire qu'on en soit aujourd'hui à commenter, observer et feuilletonner des affaires. Mais je pense que François Fillon n'a pas eu le choix. Et que François Fillon, ayant essuyé effectivement un torrent de boue depuis plusieurs semaines, il fallait qu'il se défende. Parce qu'il est légitime, sain et logique que chaque responsable politique qui est attaqué à ce point défende son honneur et défende son intégrité.
Mais là, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'on veut bien parler du fond, mais c'est François Fillon qui remet une pièce dans la machine.
C'est bien ce que je vous dis, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était attaqué et que toutes les attaques allaient dans le même sens depuis plusieurs semaines, il fallait aussi que François Fillon dise d'où venaient ces attaques et qu'il considère que, ne serait-ce que par parallélisme des formes, si lui avait fait l'objet d'enquête, peut-être aussi faudrait-il que l'Élysée en fasse l'objet.
Alors, Sozy Kemener, c'est vrai que c'est un angle d'attaque de François Fillon. Il avait dit au moment de la démission de Bruno Leroux, quand il y avait eu une déclaration de François Hollande, lors du Conseil des ministres, il avait dit il faut que la République soit exemplaire. Et là, François Fillon avait dit les masques tombent, etc. Donc, ça veut dire que c'était un axe de défense.
C'est Luc Châtel, oui. C'était un communiqué de Luc Châtel.
Et puis, il l'a dit ici aussi à la Maison de la Radio, lors de l'Association des maires de France, en audition, il a dit les masques tombent, enfin. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie qui travaille quand même depuis un début de semaine, là, à peu près.
Non mais évidemment, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie désespérée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui lui reste à François Fillon ? Il lui reste finalement cette stratégie du complot, du complotisme. Je trouve ça finalement, je suis pas sûre que ce soit très efficace parce que finalement, il boxe un peu dans le vide. Il boxe contre qui ? Il boxe contre un François Hollande. François Hollande, il est pas candidat à la présidence de la République. Il faut le signaler et le répéter. Donc finalement, il fait quoi ? Il finit par porter le discrédit sur l'institution, c'est-à-dire sur la présidence de la République. Donc moi, je pense que c'est un jeu très, très dangereux. Et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut vraiment ne pas manier. Et quand lui, il le manie même pas avec précaution, il y va carrément, ça ressemble pas à François Fillon, on a assez parlé, on a assez dit qu'il y avait eu un renversement, une nouvelle attitude de François Fillon dans cette campagne, mais là, on a l'impression qu'il est vraiment dans l'énergie du désespoir, il ne lui reste plus que ça.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Pierrick Bonhomme.
L'ancien suppléant de François Fillon dans la Sarthe, mis en examen par les juges du pôle financier, Marc Joulot, visé lui aussi dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope. Il l'a employé de 2002 à 2007, l'épouse de François Fillon comme assistante parlementaire. Les juges l'entendaient depuis ce matin. La visite de Marine Le Pen à Moscou, la présidente du Front National reçue par le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, c'était la première fois, du moins officiellement. Le chef d'État a assuré à Marine Le Pen qu'il n'y aurait pas d'ingérence russe dans l'élection présidentielle française. Selon un des conseillers de la candidate, la rencontre a duré 1h30, mais il n'a pas été question d'argent, assure-t-il. Le Front National est en effet à la recherche de 6 millions d'euros pour financer sa campagne. Chômage quasi stable le mois dernier, moins 0,1%. Les chiffres de février viennent d'être annoncés par le ministère du Travail. 0,1%, ça représente 3500 chômeurs qui ont retrouvé le chemin de l'emploi. Cette très légère baisse concerne toutes les classes d'âge. Donald Trump somme les élus républicains de faire adopter l'abrogation de l'Obamacare. Le vote a été reporté hier, faute d'accord au sein de son propre parti. Premier test législatif pour le président américain qui appelle les parlementaires à se prononcer avant ce soir. Et puis une alerte météo pour les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Vigilance orange, pluie, inondation et orages. Depuis 19h ce soir, des orages parfois violents, prévient Météo France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette expression qui est revenue au goût du jour grâce à François Fillon hier soir, le terme cabinet noir. Alors si vous avez raté le début de cette affaire, tout s'est déroulé donc hier soir lors de l'émission politique de France 2. Et interrogé sur les affaires, voici ce que le candidat de la droite a déclaré.
Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ses allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État.
Voilà, donc une accusation immédiatement démentie par l'un des auteurs de ce livre, Didier Assous, et dénoncée ce matin sur notre antenne par François Hollande lui-même. On l'écoute.
Bon, vous savez, je ne veux pas rentrer dans le débat électoral, je ne suis pas candidat, mais il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, ou en deçà.
Il n'y a pas de cabinet noir à l'Élysée.
Écoutez, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires. Et vous savez, ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence et ne jamais interférer. Je crois que c'est très différent de mes prédécesseurs.
Voilà, François Hollande, donc ce matin sur France Info. Diane Ducret, quand vous entendez ça, voilà ce que disait Soyez Kamener, cette passe d'armes à distance, François ouais. Fillon, François Hollande.
Je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que je dirais enfin. Enfin, les spin doctors de François Fillon se réveillent. Il était temps d'avoir un contre-feu qui s'allume. Il est évident qu'il y a un marionnettiste dans l'histoire, puisque là, ça vole en escadron autour de lui. Il y a forcément un porte-avions. Je vois mal François Hollande en marionnettiste. Mais en effet, puisqu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette histoire, c'est la gestion du temps et de la durée. Si l'affaire Fillon avait dû éclater de manière naturelle, elle aurait éclaté en une seule fois. Et d'un coup, là, en revanche, elle est distillée savamment chaque semaine. Donc, évidemment, il y a une scientificité là-dedans, puisque c'est plusieurs coups, un enchaînement de coups qui mettent par terre l'adversaire et au tapis, rarement un seul coup. En revanche, c'est assez dangereux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, substituer un scandale personnel à un scandale d'État, voilà la manière, jeter le doute et le soupçon, non plus sur soi, mais déplacer l'objet sur un appareil étatique, c'est très efficace. C'est à ce moment-là que Trump a réussi à renverser la machine et a réussi à gagner l'élection américaine. Il a jeté le discrédit sur l'administration Obama. Il a gagné. Après, attention, c'est un mouvement un peu osé. On n'est pas aux États-Unis. Voyons ce que ça va donner chez nous. Mais c'est la vieille technique de la CIA, voilà, quand quelque chose a fuité, on en rajoute encore, on remet soi-même dans la machine pour justement jeter le discrédit, surtout, comme ça, tout est dans le soupçon.
Contre-feu, on a parlé beaucoup de Charles Pasqua aujourd'hui, celui qui est
bien sûr, l'affaire dans l'affaire, mais je voulais prolonger ce que vous venez de dire. Le séquençage, il est assez normal. Qu'est-ce qui s'est passé François Fillon, finalement, il est passé sous les radars. Personne ne pensait, moi la première d'ailleurs, qu'il pouvait remporter la primaire de novembre. Donc finalement, il y a eu assez peu de travail sur François Fillon. Il y a une seule biographie, c'est rarissime qu'un homme arrivé qui a passé 5 ans à Matignon.
Il a quand même été Premier ministre.
Il a passé 5 ans à Matignon, mais il n'y a pas eu de travail sur lui en profondeur. Il n'y a jamais eu d'enquête véritablement journalistique sur François Fillon.
Justement parce qu'il a été le Premier ministre.
Donc là, il y a cette première affaire qui sent dans le canard. Donc tout le monde commence à s'intéresser à François Fillon. J'ai du mal à penser qu'il y ait quelqu'un quelque part qui soit en train de travailler à un séquençage. Ou alors il faudrait être machiavélique et excellent pour réussir à donner un petit peu au canard enchaîné, un petit peu à Mediapart, un petit peu à un autre média. Ça me paraît quand même très compliqué d'imaginer quelque chose comme ça puisse exister.
Geoffroy Hidier, quel serait l'intérêt aujourd'hui d'un cabinet noir contre François Fillon ?
Écoutez, l'intérêt, c'est de faire gagner la gauche et d'éviter que la droite puisse à la fois faire le bilan de l'action, de l'inaction de François Hollande, et puis d'incarner une alternance et donc une espérance.
Parce qu'il n'y a que des ennemis, François Hollande, c'est vrai que Benoît Hamon ne l'a pas soutenu, Emmanuel Macron a démissionné.
Non, mais ça, ce sont les affaires internes de la gauche. Et d'ailleurs, en regardant le débat de la primaire avec les 5 candidats, je me suis dit qu'il y en avait un seul qui incarnait la droite et qu'en réalité, les 4 autres incarnaient la gauche. Mais je pense que les Français ont le droit à la vérité, qu'ils ont eu beaucoup d'informations vérifiées ou pas vérifiées, parfois même invérifiables, sur François Fillon et sur un seul candidat. Mais qu'ils aimeraient aussi savoir si... l'argent public, si les institutions de la République ont pu être, oui ou non, utilisées pour des raisons partisanes dans un moment quand même intense de la vie démocratique. Si c'est le cas, ou si il y a, puisque en réalité je ne me fais que me référer au verbatim d'un livre à paraître, qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais dont on a lu quelques bonnes feuilles ici ou là, j'estime effectivement que ça vaut le coup d'ouvrir une enquête pour en savoir plus. Des enquêtes ont été ouvertes sur François Fillon sur des faits de presse. Je ne vois pas pourquoi une enquête ne serait pas ouverte sur un fait de livre.
Et comme Bruno Leroux aussi. Bruno Leroux, c'est des faits de presse également. Donc finalement, il n'y a pas que François Fillon. On voit qu'aujourd'hui, c'est la classe politique.
C'est la classe politique. La situation de Bruno Leroux est encore atypique dans la mesure où il n'est pas candidat à la présidentielle. Là, on parle bien de l'élection quand même qui est très structurante pour la vie politique française, avec un projet incarné par François Fillon que malheureusement, lui-même n'est plus en mesure aujourd'hui de défendre comme il le faudrait. Et c'est la raison pour laquelle je considère aussi qu'on a beaucoup parlé de François Fillon. Il faudrait peut-être aussi qu'on reparle aujourd'hui de François Hollande.
Alors, Éric Scholl, justement, quand on entend Julien Drey, du Parti Socialiste, ou d'autres, auparavant, après la démission de Bruno Leroux, qui disaient « maintenant, François Fillon doit prendre ses responsabilités », c'est quoi ? C'est de la provocation ? Ils savent très bien, aujourd'hui, que c'est trop tard.
C'est pour l'acculer, mais en même temps, moi, je suis assez d'accord. Là, il est dans la contre-offensive, et effectivement, ça rappelle, il y a quelque chose de chez Trump là. Trump a fait exactement la même chose. Enfin, il a montré. Rappelez-vous, on est à un mois du vote aux États-Unis. Il y a toutes ces affaires qui sortent sur Donald Trump, ces scandales sexuels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a rajouté. Alors, il est allé avec tout le personnage, son outrance, mais au fond, il a réussi à rassembler son camp contre Hillary Clinton. Il fallait la pendre, elle était honnie par son camp, il la faisait à chacun de ses meetings et il la faisait détester par son public. Et au fond, il a été dans la contre-offensive et ça a rassuré son camp. Et je pense que au fond, chez ce qu'on voit là chez Fillon, c'est que il a d'abord encaissé. Et son camp a dû se dire, il a même expliqué, bah oui, c'est de ma faute, ah bah les costumes, je les ai rendus, j'aurais pas dû faire ça, c'est de ma faute, etc. Et donc là, tout d'un coup, on le voit repartir à l'offensive, et c'est, je pense, une technique pour rassurer, peut-être, pour dire qu'il est capable aussi de repartir à l'offensive. Voilà. On est franchement dans la stratégie.
En sachant que les costumes sur mesure, on ne sait pas à quoi ça sert de les rendre, mais bon, voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. Sois-y, Kemener, quelle suite de campagne, finalement, aujourd'hui, pour François Fillon? Est-ce que ça va continuer comme on a connu jusqu'à présent?
Mais bien sûr, regardez, la campagne de François Fillon existe très peu, n'existe quasiment pas. Alors, il est ce soir contre-exemple absolu, et vous allez me dire, il est ce soir en meeting à Biarritz, et demain, il visite une fabrique de piment d'Espelette, si mon souvenir est bon. J'ai regardé son agenda. Mais l'agenda est quand même très peu fourni. Regardez les passages médiatiques, et regardez les déplacements d'Emmanuel Macron, des favoris de la présidentielle. En regard, on a un François Fillon qui a finalement assez peu présent sur le terrain. D'ailleurs, c'est par hasard si Xavier Bertrand dit aujourd'hui il faudrait qu'il fasse 4 meetings quand même. Regardez, on est quand même dans le dernier mois là de la présidentielle. Donc il va faire très peu campagne, il va faire quelques grands médias, il va continuer, c'est ce qu'ils disent tous dans l'équipe Fillon, finalement il continue comme ça, il y aura pas de grands changements il y aura ses coups de pub, ses coups de com, comme ça a été le cas hier soir.
Pour le coup, pour connaître le calendrier de campagne de François Fillon, je crois qu'il ne s'arrête pas, et d'ailleurs j'observe que tous les soirs il est en meeting. Et ça va être le cas dans les prochaines semaines. Ah, je vous assure que dans le calendrier que j'ai vu de campagne, mais qui n'était pas rendu public.
Il y a
juste un calendrier qui n'est pas rendu public pour l'instant, parce qu'il est assez logique que j'ai l'information avant vous, heureusement quand même. Je peux vous dire qu'il y a des meetings prévus tous les soirs.
Allez, on va parler de la suite de la campagne présidentielle. Dans un instant, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Toutes les classes d'âge sont concernées, très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi le mois dernier, moins 0,1%, soit 3500 chômeurs de moins par rapport à janvier. Sur les trois derniers mois, la tendance est à la hausse. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi de catégorie A est en hausse de 6500, plus 0,2% en raison de l'augmentation constatée au mois de décembre. La réponse de François Hollande à François Fillon, le chef de l'État a choisi France Bleu et France Info pour réagir aux accusations de cabinet noir à l'Élysée proférées par le candidat de la droite à la présidentielle. Le président de la République estime qu'avec ces accusations mensongères, Fillon est en deçà de la dignité. Tout est clair ici, et ce qui n'est pas clair, c'est ce que M. Fillon doit justifier auprès de la justice, ajoute François Hollande. Les trois lycéens de Concarneau blessés dans l'attaque de Londres, rapatriés en France par avion sanitaire. L'un d'eux vient d'atterrir à Quimper, les deux autres dans les heures qui viennent. Information de France Bleu, Breizhizel, fauché par la voiture du terroriste sur le pont de Westminster. Ces trois lycéens souffrent de multiples fractures et ont dû être opérés dans un hôpital de la capitale britannique. C'est un affront pour toutes les figures du printemps arabe qui dorment encore derrière les barreaux. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est rentré chez lui. Il a quitté l'hôpital militaire du Caire dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. Le 2 mars, Moubarak a été acquitté dans le procès du meurtre de centaines de manifestants pendant la révolte.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Sozy Kemener, de Marianne, le conseiller régional d'Île-de-France Les Républicains, Geoffroy Didier, également Éric Scholl, directeur de Courrier International, et l'écrivain Diane Ducray. Justement, Diane Ducray, on a souvent dit que cette campagne, vous qui êtes romancière, ressemblait à un scénario. On a vu aujourd'hui donc l'ex-suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulot, mis en examen pour détournement de fonds publics par les juges financiers qui enquêtent sur de possibles emplois fictifs de Pénélope Fillon, dont il a aussi été l'employeur. Ces rebondissements permanents, pour vous, c'est quoi? C'est un feuilleton, justement? Est-ce qu'on peut employer ce terme, d'après vous?
Non, je n'aimerais pas. Non. Le terme de feuilleton, non. Quand même, on mérite tous un petit peu mieux, étant donné l'échéance, l'importance de l'échéance qui va venir. Néanmoins, disons, quand on regarde l'histoire, on a l'impression de voir toujours un éternel recommencement et qu'en effet, la campagne actuelle ou le contexte actuel de la France me fait beaucoup penser parfois dans Les Indésirables. Nous sommes en 1940 et j'avoue qu'il y a quand même une très forte montée du nationalisme, un très fort afflux de réfugiés, une guerre à nos portes. Des gens que l'on masse par milliers dans des gymnases, dans des hôtels de fortune, et puis finalement que l'opinion publique et l'extrême droite vont utiliser pour gagner à leur cause et rallier à leur cause les Français. Ça ressemble un petit peu aux années 40 parfois.
Ouais. Ah, c'est plus rassurant, parce que pendant ce temps-là, justement, Marine Le Pen, elle, quelle transition d'ailleurs, a rendu visite à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, une rencontre totalement informel, hein, nous dit-on, un petit coucou au président russe, hein, comme peut le faire n'importe qui passe par Moscou, tellement improvisé d'ailleurs que lors de leur rencontre, il n'y avait qu'une seule caméra, celle du Kremlin. Bon, sûrement un oubli des rédactions françaises, on est bête parfois. En tout cas, la candidate du Front National est ressortie enchantée et s'imagine bien avec une nouvelle bande de copains, Marine Le Pen.
Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine, c'est le monde de Donald Trump aux États-Unis. Et je pense que je suis probablement celle qui partage avec l'ensemble de ces grandes nations une vision, encore une fois, de coopération et non pas une vision de soumission et non pas une vision belliciste telle que celle qui est exprimée bien souvent, trop souvent, par l'Union européenne.
Voilà, Marine Le Pen aujourd'hui à Moscou. Éric Scholl, là, Marine Le Pen s'inscrit dans les pas de Vladimir Poutine, Donald Trump.
Si on avait encore des doutes sur Vladimir Poutine, voilà, là, on sait.
Alors maintenant. Lui, il dit, oui. Non, moi, je veux pas interférer dans aucune
absolument
campagne politique.
Non,
aucune campagne
absolument
politique.
Absolument pas. Je recevant pendant une heure ou une heure et demie.
Il dit l'inverse.
Qu'est-ce qu'il fait, Vladimir Poutine? Il passe son temps, depuis maintenant des mois et des mois, à essayer de diviser les pays européens. Et il le fait dans nos pays, il le fait dans les Balkans, il le fait partout en Europe. Et il essaye de diviser l'Europe. Il est d'ailleurs plutôt bien arrivé. Et je regardais la presse russe aujourd'hui, elle applaudit cette visite. Elle dit, c'est génial, cette Marine Le Pen, c'est une politicienne chevronnée. C'est le journal Le Zglagd qui dit ça, qui nous dit une politicienne de haut vol, chevronnée. Elle a fait un coup intelligent en se rendant à Moscou. Et donc, on est quand même assez sidéré. Des deux côtés, on est sidéré par l'attitude de Marine Le Pen. On est aussi sidéré, et je dirais c'est presque plus grave, par ce Vladimir Poutine qui joue vraiment les diviseurs en Europe.
Geoffrey Didier, justement, cette visite, Marine Le Pen, on sait très bien, alors, on parle souvent de la Russie par rapport au financement éventuel, hein, de certaines campagnes du Front National par rapport à la Russie. Aujourd'hui, là, le cas concret, on a vu, bon, elle y est allée clairement dans une opération de communication, une photo pour serrer la main de Vladimir Poutine. Pour vous, c'est un moment important, justement, de cette campagne, de voir Marine Le Pen.
Soyons lucides, hein. Il y a une grande chance que Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Et je n'exclus pas totalement qu'elle l'emporte. Donc, face à ce principe de réalité, moi, ça ne me choque pas qu'un président de puissance étrangère voit une personne dont il considère qu'il y a une chance qu'elle devienne présidente de la 5e ou la 6e puissance économique mondiale. Emmanuel Macron a rencontré Angela Merkel, François Fillon a rencontré plusieurs chefs d'État, Marine Le Pen a tenté de voir Donald Trump, elle n'a pas pu le faire, elle a vu Vladimir Poutine. Je ne pense pas en réalité que ça lui fera véritablement gagner des voix, parce que, heureusement ou malheureusement, une élection présidentielle ne se joue pas sur la politique étrangère. Mais réveillons-nous, Marine Le Pen est aujourd'hui une candidate sérieuse. Donc si vous croyez qu'on peut encore l'ostraciser au niveau national comme au niveau international, ce n'est pas prendre en compte la situation. Moi, je préfère la combattre sur le plan des idées que de nier son existence.
Mais justement, ces idées, c'est ce qu'apprécie justement Vladimir Poutine. Il l'a dit, moi je ne veux pas interférer, même si ces idées sont intéressantes. En effet, je crois qu'il l'a dit, on a vu Emmanuel Macron à Berlin, tout comme François Fillon, ils ne sont pas à Moscou. Là, c'est quand même un geste d'aller voir Vladimir Poutine.
Oui, et puis c'est un geste de la part de Vladimir Poutine. Hein. Il dit qu'il ne veut pas s'immiscer, mais évidemment qu'il veut s'immiscer. C'est une joie même pour lui. Et donc on voit, il avait voulu s'immiscer déjà dans le débat de la droite, hein, en soulignant à quel point il aimait, il appréciait François Fillon. Et d'ailleurs, les médias proches du pouvoir russe avaient salué la victoire de François Fillon. On en avait déjà parlé ici,
exactement,
à la primaire. Donc là, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde, il a des relais très efficaces en France. Donc il sait... Il sait exactement ce qui se passe. Il se voit que François Fillon, même si aujourd'hui il est toujours dans la course, évidemment, est en mauvaise posture. Et donc, il met un peu de, il disperse un petit peu ses chances. Donc, il accueille Marine Le Pen. Et puis, c'est une façon aussi, c'est un bras de fer, hein, on le sait, sur les sanctions économiques contre son pays suite à l'annexion de la Crimée. Donc, il veut une levée. Il veut peser dans le débat international. Donc, il fait tout en même temps. En fait, cette visite permet tout ça en même temps.
Alors, on va continuer à en parler, notamment aussi ensuite de la campagne présidentielle à gauche. On parlera également un petit peu de littérature. Ça fait du bien juste avant le week-end. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Et si je profitais de la nouvelle Livebox Pro pour mon business ?
Moi, avec la Livebox Pro d'Orange, je réponds aux mails de mes clients dans tout l'atelier grâce au Super Wi-Fi.
Pas mal. Mais moi, grâce à ma nouvelle Livebox Pro, je peux envoyer toutes les photos du studio à mes clients.
Mais moi, avec la Livebox Pro, je connecte mon TPE directement à Internet.
TPE, travailleur au physique extraordinaire ?
Non.
Avec la nouvelle Livebox Pro d'Orange et la fibre 100% fibre, profitez du très haut débit pour votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, nous retrouvons Élodie Calac.
Encore agité dans le sud-est, des pluies marquées orageuses cette nuit et demain matin sur le Languedoc-Roussillon, en particulier sur les départements en vigilance orange. De la pluie aussi sur les côtes varoises et près des Pyrénées. De l'Aquitaine à Rhône-Alpes, quelques ondées sous un ciel bien nuageux. L'après-midi, retour au calme sur le Languedoc-Roussillon, retour des éclaircies jusqu'au midi toulousain. En revanche, ce sera bien pluvieux sur PACA et en Corse. Attention aux avalanches sur les Alpes du Sud, sur les Pyrénées-Orientales. Et puis sur la moitié nord, on sera plus gâté, du soleil pour la journée, seul ombre au tableau, le vent jusqu'à 70 km à l'heure. Il fera doux l'après-midi, 14 degrés à Caen, 15 à Bordeaux, à Nîmes, 18 à Paris, Strasbourg, Nantes, 20 pour Ajaccio. Dimanche, bonne nouvelle, un temps ensoleillé pour tout le monde.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Camille Revel, bonsoir.
Bonsoir. La Guyane paralysée avec un mouvement de grogne sociale d'ampleur depuis le début de la semaine. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce l'envoi d'une mission interministérielle dès demain. En attendant, les établissements scolaires sont fermés et la situation de plus en plus tendue, Caroline Marie.
Depuis jeudi, des barrages sont érigés un peu partout sur les axes routiers de Guyane. La nuit dernière, essentiellement dans Cayenne et ses environs, des barrages sauvages et 3 agressions violentes ont été recensées. La maire de Cayenne réclame un couvre-feu pour les mineurs. Une cellule de crise vient d'être activée à la préfecture. Ce mouvement général a commencé par les socioprofessionnels. Ils réclament une part du chantier du nouveau pas de tir d'Ariane 6. Lundi, ils ont bloqué du matériel au port et l'accès au CSG. Le centre spatial a dû reporter le lancement d'une fusée. Meurtres et braquages battent ici des records, bien plus qu'aux Antilles ou à Marseille. Plus de 50% de la population a moins de 20 ans dans ce département, qui connaît une croissance démographique de plus de 3% par an. Aujourd'hui, l'immense majorité de la population est solidaire pour demander aux politiques de se pencher enfin sur l'avenir de ce département à l'agonie.
Et autre conséquence de ce mouvement, les vols Paris-Cayenne sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon. Déclaration signée François Fillon, lui-même, le candidat de la droite, au meeting à Biarritz ce soir, après avoir accusé François Hollande hier d'être à la tête d'un cabinet noir, orchestrant les affaires judiciaires contre lui. Le chef de l'État lui dément et riposte sur France Info avec ces mots. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter. L'enquête sur l'affaire Fillon, elle continue avec la mise en examen ce soir de son ancien suppléant et actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Joulot, pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir rémunéré Pénélope Fillon pour un emploi présumé fictif d'assistante parlementaire. Une baisse en demi-teinte pour le chômage au mois de février, moins 0,1% pour les demandeurs d'emploi en catégorie A, soit ceux qui n'ont pas du tout travaillé, c'est-à-dire 3500 chômeurs en moins. Mais toutes catégories confondues, ce chômage est en légère hausse de 0,3%. Aux États-Unis, l'administration Trump se prépare à un échec à l'approche d'un vote emblématique au Congrès. Les membres de la Chambre des représentants votent sur l'abrogation de la réforme santé dite Obamacare et plus d'une trentaine de républicains annoncent leur opposition au texte, texte rejeté par la minorité démocrate. Donald Trump a fait tout ce qui était possible pour que la loi passe, assure le porte-parole de la Maison Blanche. Le début ce soir du 23e SIDA Action, ce marathon annuel de récolte de dons pour la prévention et la recherche contre le sida. Vous pouvez faire vos dons jusqu'à dimanche minuit, soit par téléphone au 110, soit sur internet ou par SMS. 20h33 sur France Info, la deuxième partie des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, que vont-ils faire justement de leur week-end, hein, siroter des spritz, faire des dabs, regarder l'intégrale de Walking Dead ou lire alors le livre de Diane Ducret, Les Indésirables, chez Flammarion? Eh bien, peut-être, nul ne le sait, car pour l'instant, ils débattent. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soizic Kemener de Marianne, le conseiller régional d'Île-de-France, Les Républicains, Geoffroy Didier, également Éric Scholl, directeur de Courrier International, et donc l'écrivain Diane Ducret. Nous étions en train de parler de la visite de Marine Le Pen à Moscou aujourd'hui. Diane Ducret, vous, quand vous avez vu justement cette photo, cette caméra, la seule caméra présente, celle du Kremlin, donc pas du tout improvisée en fait, du tout, cette visite, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah ben là, c'est plus du tout informel. Pour moi, c'est carrément un préliminaire politique. Elle dit de lui qu'il est l'homme nouveau, qu'il est le vecteur d'un monde nouveau. Ce sont des mots. On parlait tout à l'heure du parallèle que je fais et que présente un petit peu mon roman aussi avec les années 40. C'est vrai que quand on parle d'homme nouveau, de monde nouveau, d'idéologie nouvelle, ça me fait toujours quelque chose, surtout dans la bouche de nationalistes assez fort. C'est toujours assez effrayant. Cela rappelle de très mauvaises conditions. Il dit d'elle qu'elle est la seule réaliste. Ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, du point de vue de ce qui se passe objectivement, c'est un peu le signe d'une vague qui est en train de prendre, en effet, les États-Unis, en effet, l'Europe, la Pologne, la Hongrie, se droitisant, dont ce genre de langage est souvent le premier signe. C'est aussi le signe à une chose qui les rapproche, c'est en effet de trouver une caste d'indésirables que l'on va blâmer à chaque fois. Alors c'est les flux migratoires pour Poutine comme pour Marine Le Pen. On va les rendre responsables des maux d'une période, d'une société. Ça, à nouveau, c'est déjà vu. Et c'est de l'utilité pour Vladimir Poutine du terrorisme, puisque ça lui permet de rebattre complètement les cartes. C'est assez malin.
C'était leur sujet d'ailleurs.
C'est malin ce qu'il fait d'un point de vue géopolitique de l'utilisation du terrorisme. Il se propose justement pour dépolariser des États-Unis. Il se propose vraiment un nouvel grand organisateur de la lutte pour le terrorisme. Et en revanche, de la part de Marine Le Pen, c'est assez malin. C'est assez malin, c'est une construction forte. À l'époque, Benito Mussolini, quand il n'arrivait pas à accéder au pouvoir, il y a Margherita Sarfatti, qui était sa conseillère et sa maîtresse, qui a fait quelque chose de très malin, qui a dit « Laisse tomber le national, si on n'arrive pas à t'imposer, on va te donner une stature internationale. » Et il est allé à la rencontre des grands dirigeants internationaux. On le raillait, on le riait à l'époque. Il était impossible qu'il gagne. Eh bien, total, ça a marché. Et tandis qu'on s'écharpe sur l'histoire du collier de la reine de François Fillon, elle est en train de marquer des points là-dessus.
À l'étranger. Alors justement, je voulais qu'il m'énerve juste une chose. Je disais tout à l'heure, une élection nationale, ça ne se joue pas forcément à l'international. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça justement? C'est-à-dire en allant, par exemple, on l'a vu au Liban, on se souvient. On l'a vu, elle est allée au Tchad également avec l'armée française. Là aujourd'hui à Moscou, c'est quand même, ça donne quoi? C'est pour une petite épaisseur, c'est ça? Une épaisseur internationale pour se dire, moi aussi, voilà, je peux être reçue.
Bien sûr, elle veut pas être mise au ban. Elle veut dire qu'elle est présidente. Regardez la façon dont elle s'est vêtue d'ailleurs. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, c'est tout important dans ce qu'elle est en train de faire. L'image est très importante. Elle est présente aux côtés de Vladimir Poutine. Elle est habillée comme Angela Merkel. Enfin, il y a vraiment un message qu'elle envoie. Elle dit, regardez, je suis là, je suis présente, je suis reçue. La dédiabolisation, c'est l'achèvement de la dédiabolisation chez un autre diable d'ailleurs, pour certains, mais tout est dans l'image qu'elle renvoie. Elle dit, regardez comment je représenterai la France. Et en ça, évidemment, ça marche politiquement dans la mesure où, qu'est-ce que c'était le déficit de François Hollande pour une grande partie? Il y avait un grand déficit, il y avait sa politique, bien sûr, mais il y avait aussi un déficit d'incarnation. Donc elle est en train de dire, voilà, regardez, je serai un président à l'ancienne. C'est ça aussi qu'elle vend aux Français.
Je n'ai pas compris si être habillée comme Angela Merkel était pour Soizic Kemener un compliment ou pas.
Je parlais dans l'image qu'elle renvoie.
Dans le mimétisme. Geoffroy, aujourd'hui, quand vous parliez tout à l'heure de Marine Le Pen, en effet, qui est en tête aujourd'hui de toutes les intentions de sondage au premier tour, Quelle attitude aujourd'hui, par exemple, pourrait adopter François Fillon face à Marine Le Pen? On sait aujourd'hui que, par exemple, économiquement, normalement, ils sont opposés. Et pourtant, on a vu, lors du débat lundi, on a vu très peu de passes d'armes entre les deux, entre Marine Le Pen et François Fillon. Pourquoi?
Je ne suis pas sûr qu'il faille une passe d'armes. Je voudrais surtout que chacun puisse exposer son projet sereinement et activement. Et ce qui se passe en ce moment autour de François Fillon l'en empêche. Je le regrette. J'aimerais aussi que l'on fasse, puisque
c'est pas forcément de la faute des médias aussi. Enfin, je veux dire, c'est,
non, mais je dis pas. Je suis pas en train d'accuser les médias en particulier. J'observe une situation de fait que je trouve désolante et dont j'aimerais qu'elle change au plus vite, parce que les Français méritent un vrai débat et méritent surtout une exposition des projets. Je pense que le projet de François Fillon est très structurant, est un projet de redressement, et je regrette encore une fois qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que le projet de Marine Le Pen est totalement ubuesque et délirant. Et je regrette qu'on n'en parle pas non plus suffisamment.
Et justement, quand Alain Juppé, par exemple, quand il n'y est pas allé, finalement, et quand il a dit « c'est trop tard », pour vous, aujourd'hui, François Fillon...
C'est trop tard pour qui?
C'est trop tard pour lui, c'est trop tard peut-être, justement, il a laissé planer ce « c'est trop tard ». Est-ce que c'est trop tard pour François Fillon? Est-ce que c'était trop tard pour Alain Juppé?
Non, je pense pas. Je pense que lorsqu'Alain Juppé, qui s'est très bien exprimé il y a quelques jours, disant que c'était trop tard pour lui, c'est parce qu'en réalité, il avait... analyser les raisons de sa défaite à la primaire, je le dis d'autant plus volontiers que moi je l'ai soutenu, c'est qu'il a considéré qu'il y avait besoin d'une relève aujourd'hui dans notre pays, ce que je crois aussi d'ailleurs, et qu'il n'était sans doute pas le mieux à même de l'incarner.
Sosie Kivener.
Mais il avait dit aussi « quel gâchis ». Et là, il ne parlait pas obligatoirement pour lui.
Mais bien sûr, mais d'ailleurs, je le dis aussi « quel gâchis ». Mais ça ne veut pas dire que c'est la faute de François Fillon. C'est un état de fait, en tout cas, qui est effectivement désolant.
Une chose, Éric Scholl, on va passer à Benoît Hamon dans un instant. Mais juste avant, bien sûr, vous êtes directeur de Cour internationale. Cette campagne est bien sûr très scrutée par la presse internationale. Aujourd'hui, quel est le candidat, finalement, qui intéresse le plus à l'étranger?
Il y en a deux. Il y a Marine Le Pen, beaucoup, mais énormément. Par exemple, en Angleterre, BuzzFeed a calculé le nombre de titres de presse qui étaient consacrés à Marine Le Pen. Plus de 600 titres au cours des derniers mois. C'est 4 fois et demi plus que Macron.
Voyez. D'accord.
Donc, et avec des titres, parfois, Ville Independente a fait la haine le jour où elle s'est présentée, où elle a présenté son projet. Donc vraiment, Marine Le Pen, on la retrouve partout. On la retrouve dans la presse allemande, dans la presse italienne, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'Europe. Pour eux, l'élection possible... Ils pensent que l'élection est beaucoup plus possible que nous le pensons ici en France. Eh bien, ça serait la fin de l'Union européenne. Ils en sont absolument persuadés. Ça inquiète énormément la presse allemande.
Allez, dans un instant, on va aller faire un petit tour à gauche, parler de Benoît Hamon. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
François Fillon réitère ce soir en meeting à Biarritz ses accusations contre l'Élysée. Le candidat de la droite à la présidentielle parle de manigance politique. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon, lance l'ancien Premier ministre. Hier, François Fillon a déjà accusé François Hollande d'avoir mis en place un cabinet noir à l'Élysée. Marc Joulot, l'ancien suppléant de François Fillon dans la Sarthe, a lui passé la journée dans le bureau des juges et il en est ressorti mis en examen, tout comme le candidat de la droite à la présidentielle, soupçonné d'avoir lui aussi embauché Pénélope Fillon pour une activité de collaboratrice présumée fictive. C'était entre 2002 et 2007, selon les révélations du Canard enchaîné à l'origine de l'enquête. Le Premier ministre annonce l'envoi d'une mission interministérielle en Guyane pour apaiser les tensions qui touchent la région d'Outre-mer depuis le début de la semaine. Objectif noué à un dialogue constructif et apaisé. C'est ce qu'indique Matignon dans un communiqué. La Guyane est paralysée. ArianeSpace a dû ajourner le lancement d'une fusée. Et les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Deux nouvelles arrestations à Londres dans l'enquête sur l'attaque qui a touché la capitale britannique mercredi. Attentat qui a fait 4 morts. Un homme de 75 ans a succombé à ses blessures il y a quelques heures. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si l'assaillant abattu par la police a agi seul ou s'il avait des complices. Et puis le Français enlevé au Tchad se trouverait aujourd'hui au Soudan, selon le ministre tchadien de la Sécurité. Ce nouvel otage français est âgé d'une soixantaine d'années. Il travaillait pour une compagnie minière.
Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, oui, il s'est passé beaucoup de choses dans la campagne présidentielle, en fait, depuis le début, tout simplement. Mais là aussi, aujourd'hui encore, et pour être complet, un petit tour à gauche avec ce matin, un Benoît Hamon, palichon, oui, on va dire ça comme ça. Il ne finit pas la semaine très en forme, puisqu'il... En fait, c'est terrible, puisqu'il passe son temps, un peu comme vous, Geoffroy Didier, pour commenter pour François Fillon, et bien lui, il passe son temps à commenter les ralliements, en fait, de socialistes à Emmanuel Macron, comme celui de Jean-Yves Le Drian. On va l'écouter, Benoît Hamon.
Écoutez, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahisons, parce que ce sont des trahisons, pas de moi, je ne demande rien, mais d'une histoire, de valeurs que nous représentons, de la place qui doit être celle de la gauche. Moi, j'incarne une gauche nouvelle, et c'est sans doute cela qui heurte certains. Il y a deux gauches aujourd'hui en France dont vis-à-vis desquelles je veux prendre mes distances, celle qui, pour gouverner, renonce à être de gauche. Et puis il y a une autre gauche qui renonce au pouvoir pour être de gauche, et qui dit dégagez tous.
Voilà, dégagez tous, c'est bien sûr en référence à Jean-Luc Mélenchon, et avant c'était à Emmanuel Macron. C'était Benoît Hamon ce matin sur Europe 1. Alors Diane Ducret, c'est une semaine assez difficile pour Benoît Hamon, après un débat un peu compliqué, après ses ralliements, après c'était plus personnel, le décès d'Henri Emmanuelli, un sondage qui montre Jean-Luc Mélenchon devant lui. Pourquoi quand vous regardez la campagne, pourquoi à votre avis Benoît Hamon a du mal à trouver sa place aujourd'hui?
Je pense que c'est un très bon politique d'opposition. Voilà. Et qu'en fait, sa place, elle
pas de conquête pour vous.
Elle est trouvée, sa place. Ouais, en d'accord. fait, c'est celle-là. C'est une conquête, l'opposition aussi. Être très bon dans l'opposition, c'est un vrai rôle. C'est un rôle que la gauche utilise très bien depuis longtemps. Au pouvoir, ça s'est passé de manière plus difficile, peut-être, sur les deux dernières fois. Et j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur lui. Sur Marine Le Pen, oui. sur est-il trop tard pour Fillon? Non.
Benoît Hamon, voilà, vous.
Mais
vous
oui, mais en fait,
pas.
Mais ouais, c'est ça. En fait, il a tellement pas de place que, en fait, moi qui ai beaucoup de notes, qui ai plein de choses à vous dire, et que je suis très bavarde, hein, vous le savez, vous me faites dégager. Et ben là, j'ai rien à vous dire, c'est assez terrible, malheureusement.
Ah bah voilà.
Pour lui,
bon, je suis même moi, je le lâche. Sujet d'étude, mais non. Justement, sur Dick Kemener, on l'a vu, hein, voilà, je reprends sur cette semaine, on sent, voilà, que ça patine et que peut-être ce sondage, en mettant Jean-Luc Mélenchon devant, c'est ce qui lui a fait vraiment du mal, parce qu'il s'attendait, j'imagine, à des ralliements, type Jean-Yves Le Drian, à Emmanuel Macron.
C'est terrible, parce que, on savait, le candidat du PS, quel qu'il soit, était sondé avant le résultat de la primaire, et il était à 5-6%. Et puis, il y avait eu un espoir à Mont, puisqu'il est arrivé à 18% au début du mois de février. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dégringole. Alors, il passe du temps à négocier avec Yannick Jadot. Les négociations d'appareil, c'est toujours épouvantable à regarder, épouvantable à observer, pas très joli, ça plaît pas du tout aux électeurs.
Hein.
C'est long pour 2%. Et puis, finalement, on a l'impression qu'il est en train de se réduire peu à peu. Alors, effectivement, il y a eu un timing qui a été très mauvais pour lui. Vous savez que son meeting, d'abord, il devait être samedi, le même jour que la marche de Mélenchon. Et puis ça a été son meeting de dimanche. Et puis ça a été décalé parce qu'il ne pouvait pas faire les deux événements le même jour. Donc, aucun moment de récupération. Il arrive au débat, on le voit, il est totalement lessivé. Et puis Mélenchon est excellent. C'est la révélation du débat, Jean-Luc Mélenchon. Il est très bon parce qu'il n'est pas dans l'attaque vis-à-vis des journalistes. C'est un intellectuel, il sait s'exprimer. Et puis il y a ce petit jeu terrible, c'est la mâchoire infernale qui se remet en place. C'est-à-dire qu'on voit bien, il joue avec Emmanuel Macron. Plaisir, hein. Vous savez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait on va faire un casse-noix et puis on fera lui au milieu, et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'ils se sont tendus la main dans un plaisir, dans une jouissance de casser le Parti Socialiste, c'est ça qui s'est passé sous nos yeux lundi soir. Donc finalement, à la fin de cette semaine, il arrive totalement essoré. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi ce choc, hein, le décès de M. Emmanuelli, dont il était très très proche, donc c'est une semaine terrible, et puis ce croisement des courbes, peut-être, ça peut encore bouger, on est dans une campagne tellement extraordinaire, mais ça arrive à un moment psychologique très très dur, on est juste un mois avant le premier tour.
Je crois, Didier, vous-même, de l'autre côté du bord politique par rapport à Benoît. Comment vous voyez justement cette campagne, vous, de Benoît Hamon, comme le disait Sophie Kemener, bloqué entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon?
D'abord, vous faites bien de préciser que je suis de l'autre bord que celui de Benoît Hamon, puisque je ne partage aucune de ses idées.
Bien sûr.
Et je trouve que celle du revenu universel est complètement gaguesque et évidemment budgétairement suicidaire. En revanche, je le trouve sincère. Et c'est la raison pour laquelle, ne l'oublions pas, il a gagné la primaire. Et il est aujourd'hui... Il jouit d'une légitimité démocratique qui est quand même celle de la primaire de la gauche. Et puis, je n'aime pas tous ces abandons successifs et moutonniers dont il est aujourd'hui la victime. Je n'ai pas aimé ces abandons à l'égard de François Fillon. Je n'ai pas aimé le fait que certains qui étaient très heureux d'être juste derrière François Fillon, grand gagnant de la primaire, montré une sorte de délectation à le quitter très vite, dès que les vents contraires commençaient à souffler.
Est-ce que ça remet en cause?
Et je n'aime pas non plus le comportement qu'a eu Manuel Valls, qui s'est, je trouve, très mal comporté, qui a été candidat à la primaire, qui a accepté les règles du jeu de la primaire de la gauche, et qui finalement aujourd'hui trahit la démocratie, trahit les électeurs, même ceux qui ont voté pour lui, parce que finalement, il joue le mauvais perdant. Mmh. Et je trouve que vous êtes bien gentil avec Manuel Valls, qui a quand même incarné les institutions de la République.
Il n'a rien dit sur Manuel.
Non, mais non, vous, c'est un groupe collectif, monsieur Bernard.
Non, mais pas pour vous. Non, mais je sais pas.
Cet homme a incarné les institutions de la République. Mmh. Il a ensuite mené une campagne piteuse et indigente pendant la primaire. Mais au moins, il a accepté les règles du jeu de la primaire. Et parce qu'il perd, il considère aujourd'hui qu'il n'est plus obligé de voter Hamon et même de le soutenir publiquement. On n'y comprend rien, parce qu'on ne sait même pas pour qui il va voter. Il va peut-être falloir qu'il nous le dise. Mmh. S'il vote Macron, qu'il ose le dire aux Français et à ceux qui ont voté pour lui. Et je trouve que, par décence, il aurait au moins dû se taire et accepter les règles du jeu de la primaire. Il ne le respecte pas, et je le dis encore, il trahit la démocratie.
Mmh. Celui qui m'énerve, vous vouliez juste rajouter.
Alors, j'entends ce que vous dites sur la promesse qui est faite aux électeurs, sur la promesse de la primaire, mais en même temps, regardez ce qui s'est passé après le résultat de la primaire. Il n'y a pas eu un regard de Benoît Hamon dans la direction de Manuel Valls pour tenter la moindre esquisse, la moindre ébauche, le moindre minute de rassemblement.
C'est la fameuse gauche irréconciliable,
voilà,
c'est ça.
Tout de suite, il a regardé vers Jean-Luc Mélenchon. On savait très bien qu'il n'allait rien se passer. Hein. Ils ont joué du cinéma pendant quelques semaines. Et il a regardé vers Yannick Jadot. Pas un mot, rien. Donc il a laissé la place à Manuel Valls. En revanche, je trouve que la tribune dans le JDD du matin du meeting, c'était une très mauvaise manière.
Alors,
un mauvais coup politique. Je pense que c'est un ratage total.
Une chose, Éric Scholl, forcément, quand on parle de Benoît Hamon, il y a Emmanuel Macron qui surgit derrière, hein, puisque c'est lui qui récolte tout le monde. Ça ressemble un petit peu à un animateur de colo, de plus en plus. En fait, le problème aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut faire de ses soutiens? De tous ses soutiens. Parce que, est-ce que ça, c'est pas dérangeant? Parce qu'on voit certains qui s'impliquent, comme François Bayrou, hein, qui fait des meetings avec lui. Il va faire un meeting aux Zénith de Pau le 14 avril, mais les autres?
Emmanuel Macron, il doit gérer deux choses, deux échéances. Il y a l'échéance présidentielle où il faut faire très attention à tous ses soutiens, c'est-à-dire il y en a certains qu'il peut mettre en avant, mais il faut pas trop en avoir parce qu'on est quand même, c'est le candidat qui est ni à droite ni à gauche. Mais d'un autre côté, peu de temps après, il y a les législatives. Et là, il va quand même avoir besoin de soutien.
Ouais.
Et de soutien, alors je sais pas si on les appellera les socialistes, les ralliés, ce que vous voulez, mais il a quand même besoin d'engranger encore beaucoup, beaucoup de ralliements. En vue des législatives, enfin tout ce jeu, il a pas d'appareil pour le moment. Mmh. Donc il va quand même, s'il va arriver à une majorité aux législatives, ça paraît encore une mission extrêmement difficile. Donc c'est ça. Quant à Benoît Hamon, ce qui s'est passé cette semaine, c'est finalement ce qu'on est en train de voir, c'est non pas la future recomposition du Parti Socialiste, c'est sans doute sa disparition à laquelle on assiste. Et peut-être avec un pôle plus à gauche, qui sera peut-être emmené par Mélenchon, mais c'est ça ce qu'on voit cette semaine. Parce que pendant longtemps,
on le voit un peu partout en Europe, hein, d'ailleurs, ça.
On a vu tous les partis de sociaux-démocrates. Alors, ça se joue entre deux forces. Ce que fera Macron de tous ses soutiens? Comment il va le composer, ouais, politiquement? Est-ce qu'il va en faire une force politique ou pas?
Allez, on va parler de littérature, mais un peu de politique aussi, hein, vous inquiétez pas. Dans un instant, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
C'est un énorme revers pour Donald Trump. Faute de majorité à la Chambre des représentants, le président américain demande à l'instant le retrait de la loi sur l'abrogation de l'Obamacare, système de remboursement des frais de santé mis en place par son prédécesseur. L'annulation de cette réforme emblématique du mandat de Barack Obama faisait partie des promesses de campagne du républicain, mais même dans son propre camp, l'abrogation de l'Obamacare était loin de faire l'unanimité. Très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi en février, moins 0,1%, 3500 chômeurs de catégorie A en moins. La catégorie A, ce sont ceux qui n'ont pas du tout travaillé. Le mois dernier, en février, toutes les classes d'âge sont concernées par cette petite embellie, y compris les chômeurs de plus de 50 ans. La baisse du chômage sur les 12 derniers mois s'élève à 3,2%. Si elle est élue présidente de la République, Marine Le Pen réfléchira à une levée rapide des sanctions contre la Russie. Ce sera même son premier geste à l'égard de Moscou. Marine Le Pen a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin aujourd'hui. Le président russe lui a notamment assuré qu'il n'y aurait pas d'ingérence russe dans l'élection présidentielle française. La bataille de Raqqa en Syrie est imminente, à en croire le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. L'offensive va débuter dans les jours qui viennent, selon lui. La ville est encerclée, mais sur le terrain, les forces kurdo-arabes engagées dans la lutte contre Daesh sont encore loin de la capitale autoproclamée des djihadistes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste très peu de temps pour parler du moment le plus délicat de l'émission, puisqu'il s'agit de pas se tromper, il ne faut plus dire Salon du Livre, mais Livre Paris. Voilà, hein, on ne sait pas combien de réunions a nécessité ce changement de nom, mais c'est bien trouvé puisque c'est un salon qui se déroule à Paris où on parle de livres, donc Livre Paris. Pour la 37e fois, donc les visiteurs vont rentrer dans la plus grande librairie de France, rencontrer leurs auteurs préférés, pour certains découvrir qu'il existe d'autres livres que le Goncourt et que Max Gallo n'est pas le seul à écrire sur l'histoire de France. Mais selon le Centre National du Livre, les Français liraient de plus en plus, tous genres confondus. Mais cette année, c'est un salon très politique puisque la plupart des candidats vont y dédicacer leurs livres. D'ailleurs, sur les 11 prétendants à l'Élysée, seuls Nathalie Arthaud et François Asselineau n'ont rien publié cette année. Alors un livre politique, à quoi ça sert? On va en parler dans un instant. Mais puisqu'on a une écrivaine à côté de nous, donc Diane Ducret, est-ce que vous considérez justement le livre de ces femmes et des hommes politiques comme des concurrents par rapport à vous?
Non, c'est un autre métier. Ce n'est pas la même chose. D'abord, il y en a beaucoup.
Est-ce qu'ils vendent beaucoup? Certains, alors, comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, ont beaucoup
Jean-Luc
vendu.
Mélenchon a énormément vendu. En période présidentielle, ils vendent beaucoup. Autrement, non. Mmh. Les livres politiques, on les voit partout. C'est un carnage pour les éditeurs. Ça ne se vend absolument pas. Sauf là, dans cette présidentielle-là, ou dans une présidentielle, et surtout Mélenchon. Sinon, surtout pas. Donc, non, d'abord, on est en concurrence. C'est un terme d'abord très vilain, mais avec ceux qui écrivent eux-mêmes leurs livres.
Ouais, bien sûr.
Là, c'est pas forcément le cas. Ce sont des plumes qui s'en occupent. Ce sont des programmes. C'est intéressant aussi. Ça permet justement de présenter d'autres aspects de programmes, peut-être moins directement politiques ou économiques. Pourquoi?
Alors, Geoffroy Hizier, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je pense que nous sommes trois journalistes autour de la table et nous recevons des centaines de livres politiques par jour. Pour vous, justement, c'est encore important qu'un politique publie un livre aujourd'hui.
Oui, mais vous faites bien de dire publie.
Oui.
Parce qu'encore faudrait-il qu'il l'ait écrit.
Oui, bien sûr.
Oui, mais c'est bien là la question. Parce que moi, j'ai écrit un livre, mon premier livre, il y a 2 ans, qui s'appelle La Fronde nationale. Et ça a été un bon moment pour moi. Parce que même si on est souvent dans les médias, qu'on dit beaucoup de choses, qu'on commente, qu'on analyse, qu'on affirme ses convictions, en réalité, lorsqu'on écrit, on ne ment jamais. C'est-à-dire qu'on forge aussi ses convictions par l'écriture. Et donc, ça a été un moment important pour moi, et c'est la raison pour laquelle je crois d'ailleurs que ce livre a été bien reçu par les lecteurs. Mais j'observe la singularité de ma démarche par rapport à celle de beaucoup de politiques, sans doute beaucoup plus occupés que moi, mais dont on se demande parfois s'ils ont même lu le livre qu'ils publient.
Ah oui, d'accord, carrément. Ceci qui m'énerve, c'est vrai que nous en recevons beaucoup, et on voit quand même que, malgré tout, il y a toujours une place importante, puisqu'on a parlé quand même d'un livre qui a dynamité un peu la vie politique, c'était Un président ne devrait pas dire ça, au mois d'octobre. Là, on en parle de nouveau hier soir, François Fillon, bienvenue place Beauvau. On voit quand même qu'il y a quand même une importance aujourd'hui du livre encore par rapport à la politique, par rapport à l'actualité.
Oui, mais c'est dans notre culture. Hein. On imagine qu'un homme politique, pour être tout à fait accompli, il doit aussi pouvoir écrire. C'est très gaulo-mitterrandien. C'est dans l'esprit. Regardez ce qui a très bien fonctionné comme livre récemment, le livre de François Fillon, Faire, hein, chez Albin Michel. C'était l'année dernière. Vaincre ensuite. Il s'est beaucoup appuyé sur ce livre justement pour entamer sa remontée des enfers. Bon, après, on voit ce qui arrivait maintenant, mais en tout cas, pour arriver jusqu'à la primaire, il s'était beaucoup appuyé sur ses livres. Alors après, il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple de Nicolas Sarkozy qui s'est appuyé sur 2 livres. Hein, le premier, La France pour la vie, le second, Tout pour la France, ça c'était juste avant sa déclaration, mais là c'était un livre vecteur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce livre, j'ai tout lu, je vous assure, mais il tenait surtout par sa 4e de couverture, il disait « oui, je suis candidat », donc c'était un livre qui ne servait qu'à ça, c'était un objet de...
Et qui a bien marché d'ailleurs. Hein,
oui, mais c'était un objet de campagne, c'était les militants qui achetaient, qui adhéraient, donc il n'y avait pas un fond extraordinaire dans ce livre-là. Donc il y a pas mal de différences, il y a le livre biographie aussi, pour les gens qui veulent se faire connaître. Mais je pense qu'encore, c'est très français. D'ailleurs, moi, je suis passée au Salon du Livre cet après-midi parce que justement, je devais suivre un des politiques qui y était et on y parlait énormément politique. C'est un endroit, c'est peut-être l'endroit où on parle le plus de politique au moment où je vous parle. Il y avait des interrogations, quel candidat à gauche choisir. Enfin, on entendait énormément parler. Je crois que je trouve ça très français.
Oui, Diane Ducret, pour vous, c'est très français, ça? Justement, la démarche.
Oui, je suis totalement d'accord, c'est vrai, c'est hérité de l'image de nos grands présidents. C'est vrai à la fois que cela donne l'image d'un homme qui ne se rue pas sur les affaires, de quelqu'un de méditatif, qui est capable, l'homme d'écriture et donc un homme de mots, donc de pensée, un homme qui sait prendre son temps, capable de percevoir le monde. C'est les héritiers du XVIIIe siècle aussi. On a besoin de le politique français, il doit être l'héritier de cette France des Lumières qui pense et donc qui écrit. Manque de peau, en effet, souvent ils prennent même pas le temps de le lire. c'est assez cocasse. Ça m'est arrivé d'en voir deux, trois, ouais, comme ça.
Très rapidement, Éric Scholl, pour vous, aujourd'hui, voilà, le salon du livre, des politiques aujourd'hui.
Oui, non, extrêmement français. Il y a quand même une, et c'est noté d'ailleurs dans la presse étrangère quand elle s'intéresse aux politiques françaises, c'est une de leurs spécificités, c'est d'écrire, d'exister, parce que c'est une condition de leur existence. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est aussi pour ces hommes et ces femmes politiques qui écrivent des livres, c'est aussi un accès aux médias pour venir parler de leurs livres. Enfin, en général,
c'est des droits d'auteur.
Largement aussi.
Intéressant. C'est des droits d'auteur intéressants. Non, mais c'est vrai, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, on a parlé lors de sa déclaration de patrimoine, par exemple.
Il a dit que c'était intéressant. Mais
voilà, non, voilà. Non, exactement. Peu, hein. Allez, les informés de France Info.
Barack Obama.
Voilà, exactement. Ça doit se terminer d'ailleurs au salon du livre. On pourra vous y trouver. Diane Ducret, vous êtes dimanche en dédicace de 14h30 à 15h30 pour votre nouveau livre qui s'appelle Les Indésirables chez Flammarion. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci à Geoffroy Didier. La une de Marianne Soïd Kemener cette semaine.
Alors, donc, on voit une photo de Marine Le Pen, de François Fillon et de Bruno Le Roux. Ils ont pourri la campagne face aux affaires La France gronde, avec les extraits d'un livre au titre éponyme, donc La France gronde.
La France gronde, c'est Marianne, et la une de Cour internationale.
Nous, c'est Marine Le Pen aussi, cette France qui fait peur, et comment Marine Le Pen obsède la presse étrangère.
Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico programme ce soir.
Alors on va reparler des Bleus qui jouent demain soir au Luxembourg. Deschamps a-t-il eu raison de ne pas répondre à Benzema? Olivier Giroud est-il le chouchou? Mais où est donc Ornicard? Enfin, est-ce qu'il est temps pour la pépite italienne Marco Verratti de quitter le Paris Saint-Germain? On répondra, promis, à toutes ces questions dans moins de 5 minutes dans le Classico.
Et bien on va voir si la promesse est tenue. En effet, c'est dans quelques minutes votre débat sport, le Classico, sur France Info.